Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes au téléphone avec monsieur Patrick Rouyanet. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Patrick Rouyanet, vous êtes une représentation de la FRAPNA, une association qui signifie précisément quoi ?
Alors, FRAPNA, Drôme Nature Environnement, comme son nom l'indique, c'est une association qui s'occupe de l'ensemble des situations d'environnement. Donc c'est très large. Là, on va parler du nucléaire, mais c'est aussi sur la gestion de l'eau, sur les déchets, sur la nature en général.
Donc vous êtes au téléphone pour nous parler de cette plainte qui a été déposée auprès du procureur de la République de la Drôme suite à des pollutions constatées dans les eaux souterraines aux environs de Pierrelatte, c'est ça ?
C'est cela. C'est une plainte qui est déposée par 4 associations. Donc vous avez Réseau Sortir du Nucléaire, la FRAPNA Drôme Nature Environnement, mais aussi Stop Tricastin et Stop Nucléaire. Et donc, cette plainte qui est déposée, elle dénonce une infraction au Code de l'environnement et à la réglementation relative aux installations nucléaires de base. C'est-à-dire que nous portons partie civile pour des faits portant des préjudices directs ou indirects sur les intérêts collectifs relatifs à la sûreté nucléaire et à la radioprotection. Alors, pourquoi ? Je vais vous expliquer. C'est sur l'INB 93. INB 93, c'est Eurodif, c'est-à-dire c'était une installation d'enrichissement de l'uranium qui s'appelait Georges Bess 1, qui était la première installation pour l'enrichissement de l'uranium. Donc cette usine, si vous voulez, elle était chargée d'enrichir en définitive l'uranium. En octobre 2019, le 19 octobre exactement, l'autorité de sûreté nucléaire a effectué une inspection sur le site de l'installation nucléaire pour voir un peu comment fonctionnait, le démantèlement de Georges Bess 1 de la société Orano-Tricastin. Le thème de l'inspection, c'était prévention des pollutions des nuisances. Pourquoi ? Parce que l'analyse portait principalement sur les méthodes de confinement hydraulique des eaux polluées qui se situaient l'usine, parce que sous l'usine, il y a une nappe alluviale qui est contaminée. Alors, elle est contaminée par deux choses. D'une part, par du perchlorétylène et d'autre part, par du trichlorétylène. Alors, le perchlorétylène, il faut savoir que c'est un solvant puissant qui a un peu l'odeur de l'éther. Il est pratiquement insoluble dans l'eau et il est classé cancérogène probable pour l'homme. Donc vous voyez que c'est quand même déjà un produit qui pose quelques problèmes. Et il est répertorié dans les maladies professionnelles du régime général pour d'autres pathologies comme les troubles cardiaques, neurologiques, hépatiques, rénaux et les troubles sanguins. Il est également toxique pour l'environnement. Il faut voir ça aussi. À noter que il n'existe pas à l'état naturel, c'est-à-dire que c'est bien un produit d'origine de pollution de l'usine. Quant au trichlorétylène, c'est un peu la même chose. Vous savez, on s'en sert pour le nettoyage des vêtements, par exemple. C'est un cancérogène avéré pour l'homme, cancer du foie, lymphome, ainsi de suite. Et c'est un composant organique volatile, incolore et lui aussi insoluble dans l'eau. Là encore, aucune source naturelle connue. Donc on est bien dans une réalité de pollution.
Ces deux produits sont de quelle densité par rapport à l'eau, plus légère ou plus lourd ?
C'est des produits qui sont en général plus légers que l'eau, de toute façon, donc qui remontent à la surface. Ce qui fait que depuis 2014, panneau, quand la pollution a été constatée, a été chargé de pomper l'eau de la nappe, la pomper, pour la traiter. C'est un système qu'on appelle le stripping, c'est-à-dire qu'on sépare les produits polluants de l'eau et on réinjecte en amont l'eau purifiée. Alors ça, c'est en théorie, depuis 2014. Dans la réalité, l'autorité de sûreté nucléaire, qui en général est pourtant modérée dans ses écrits, a mis que le bilan de résultats était très mitigé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2014, ils ont constaté que le processus de traitement de la nappe n'a pas fonctionné, et qu'il y a eu de nombreuses pannes, des problèmes techniques qui ont retardé son application, des tuyaux qui se colmatent, des systèmes hydrauliques qui ne sont pas toujours en fonction, et ça depuis 5 ans. Et bien entendu, Orano avait géré ça dans la plus grande tranquillité.
Je voulais vous demander, vous parliez sur votre texte de présentation que sur les 5 ans passés, il n'y a eu que 200 journées vraiment effectives dans le traitement de ces eaux.
Exactement. C'est-à-dire que on est vraiment dans une incapacité par Orano de traiter le problème. Et il y a donc une urgence de trouver des solutions techniques efficaces. C'est-à-dire que depuis ce temps, on n'a rien fait et on n'a pas trouvé les solutions techniques. Donc l'ASN demande à Orano de devenir vraiment efficace et de lutter contre cette incompétence. Et ils disent même, Orano Cycle doit faire des propositions concrètes pour permettre un fonctionnement pérenne de l'installation à court et long terme. C'est clair, ça veut dire que jusqu'à maintenant, ils ont été incapables de faire quoi que ce soit qui puisse fonctionner et donc dépolluer la nappe.
Avant d'arriver à cette plainte auprès du procureur, vous avez certainement dû contacter ces organismes d'enrichissement d'uranium pour en connaître un petit peu plus leurs données. Cela vous a conduit donc à partir de quel moment de vouloir porter plainte?
Si vous voulez, c'est devant, hein, devant le signalement. Quand on a appris en octobre 2019 la situation, c'est là où on s'est dit ben, il faut bouger, parce que ils avaient un engagement à réagir d'ici dans les 2 ou 3 mois qui suivaient, et à l'heure actuelle toujours rien n'est fait. Alors nous faisons partie, comme d'autres associations, nous faisons partie de la commission locale d'information, vous savez, pour le nucléaire, qui est chargée de s'occuper de la sûreté et de la sécurité des instituts, des installations nucléaires de base. C'est la CLIGET. Et la FRAPNA, Drôme Nature Environnement, fait partie de cette CLIGET. Et donc, nous n'avons, au niveau de la CLI, nous n'avons à aucun moment été informés clairement de la situation. Longtemps, on nous a dit non, vous inquiétez pas, on pompe, on sait faire, on gère. Sauf qu'en réalité, ils ne pompaient pas, ils ne savaient pas faire et ils ne géraient pas. Et les injonctions de l'ASN, si vous voulez, nombreuses que l'on voit là sur cette dépollution de nappe, eh bien, à aucun moment n'ont été prises vraiment au sérieux par les responsables d'Orano. Et c'est là où c'est tout à fait regrettable. Donc, trouver des solutions pérennes, est-ce qu'ils vont être capables de les trouver? Comment va-t-on gérer ça dans l'avenir? On peut se poser encore de nombreuses questions. Et la liste est longue, quoi, de la demande de l'autorité de sûreté nucléaire, qui demandait dans les 2 mois des réponses claires à leur courrier. C'est-à-dire qu'ils ont fait un courrier le 5 novembre, 5 novembre 2019, 2 mois, à l'heure actuelle, les réponses claires, on ne les a toujours pas. Donc, il y en a assez. Il faut vraiment réagir. Il est indispensable de dépolluer cette nappe. Et devant le laxisme de la société, on dit que c'est totalement anormal. Alors, d'autant plus que lors de l'inspection, l'ASN a découvert d'autres choses, des produits périmés qui n'étaient pas rangés, des tuyaux qui continuaient à fuir et donc qui continuaient à polluer la nappe. Vous voyez, on est dans des locaux qui n'étaient pas ventilés, donc avec des risques pour le personnel, certains, hein, sur ces produits. Eh bien, tout ceci, au bout d'un moment, eh bien, nous sommes responsables et devant la loi, nous estimons que nous devons faire changer les choses. D'où cette plainte.
Cette plainte, encore, faut-il qu'elle soit redevable auprès du procureur ? Est-ce que vous avez un espoir ?
Elle sera retenue par le procureur. Alors après, comme toute plainte, c'est une plainte donc qui va à un système judiciaire en définitive. Et puis, on espère bien obtenir satisfaction sur quelque chose comme ça et obtenir justement une accélération de la situation. Parce que toujours, si vous voulez, les sociétés du nucléaire ont toujours estimé qu'ils étaient à côté, en dehors, dans un relatif secret de sécurité. Mais non, les citoyens ont droit de savoir. Et ils ont droit de savoir s'il y a une pollution, ils ont droit de savoir si la société Orano fait le travail et dépollue, ce qu'elle ne fait pas à l'heure actuelle. Donc nous sommes là aussi pour dénoncer et que les citoyens connaissent la situation réelle qu'il y a auprès de cette usine. D'autant qu'à l'heure actuelle, Orano veut agrandir ses zones de stockage, veut élargir son périmètre. Ils ne sont pas capables de gérer les situations actuelles et ils veulent aller encore au-delà, plus grand, plus loin. D'où nos inquiétudes.
Oui. Vous vous êtes appuyé sur le rapport de l'ASN, les carences qui se situaient donc sur ce site géré par Orano. Par contre, est-ce que vous êtes aussi renseigné sur la viabilité de cette entreprise ? Est-ce qu'elle a pris conscience ou on a tels les moyens de manière à pouvoir justement contrecarrer ce problème ?
Alors, c'est toujours la question qui est posée par rapport aux priorités. Est-ce que la priorité, elle, est environnementale ? Est-ce que la priorité, elle, est économique ? Et très souvent, on nous retourne, pour des raisons économiques, des refus de gestion environnementale. C'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai pour... Mais on marche sur la tête. On sait les urgences à l'heure actuelle qu'il y a au niveau de notre planète, et toutes les sources de pollution, je vous ai cité les risques par rapport à ces produits, comment peut-on tolérer que de tels produits puissent continuer à polluer une nappe, même lorsque l'ASN l'a demandé depuis 2014 ? C'est-à-dire que on n'a rien fait et on est resté dans un silence de 2014 à 2019.
La FRAPNA, ça rejoint un petit peu ce qui se passe aussi au niveau des néonicotinoïdes auprès des producteurs de betteraves sucrières.
Oui. Regardez ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, la loi, elle va être votée aujourd'hui de dérogation. À l'heure actuelle,
elle est votée.
On constate qu'il y a trop de pucerons auprès des betteraves, et on dit « Ah, mais puisqu'il y a trop de pucerons, eh bien, on va remettre des pesticides. » Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Certains agriculteurs, eux, se sont mis en bio. Ils travaillent avec, tout simplement, des coccinelles ou des choses comme ça qui luttent contre les pucerons. Mais si vous mettez des pesticides, vous tuez les insectes. Donc, automatiquement, c'est un cercle vicieux. Et au lieu d'avoir... en prévention, travailler sur comment on va gérer les betteraves plus tard, eh bien, on a continué à travailler avec des pesticides en disant « Mais non, on ne peut pas enlever les pesticides, autrement on aura les pucerons. » C'est une hérésie, mais comme d'habitude, là, on a des années de retard sur la pollution et sur les betteraves, eh bien, au lieu d'avoir préparé la situation, faire changer... pour les pesticides, eh bien, on a continué à travailler de la même manière. Et en disant, ah, mais ne touchez pas à l'économie, parce que la FNSEA, les agriculteurs, ils étaient là pour défendre leurs habitudes et surtout ne rien changer. Ne nous compliquez pas la vie.
Oui, parce que l'injonction d'arrêt d'utilisation des nicotinoïdes date d'une dizaine d'années, ce qui avait en principe laissé du temps pour justement trouver un substitut à ces produits.
Surtout que ces substituts existent. Ils sont simples, je vous ai dit, c'est l'utilisation des coccinelles. Mais pour qu'il y ait des coccinelles, il ne faut plus qu'il y ait de pesticides. Et si on a les coccinelles, on retrouve aussi les abeilles.
Voilà, nous revenons à Orano et ses centrales de traitement et d'enrichissement d'uranium. Pour vous, qu'est-ce que représente cette usine d'un point de vue économique, justement, au niveau national ?
Si vous voulez, elle s'appuie sur l'ensemble de la démarche du nucléaire, c'est-à-dire qu'il faut alimenter les centrales, et pour alimenter les centrales, il faut de l'uranium enrichi. Donc, Georges Bess 2, puisque Georges Bess 1 est en démantèlement, hein, c'est fini, hein, la nappe polluée dessous aussi. Il faudrait qu'on nettoie tout ça, mais si vous voulez, c'est le processus du nucléaire. C'est-à-dire que le nucléaire a besoin d'alimentation de produits d'uranium enrichi, hein, et puis on va à différents produits. Bon, ben là, ça nous emmènerait très loin, hein, mais c'est le cercle vicieux du nucléaire. Alors on nous le présente comme le produit extraordinaire. Vous avez même un président qui dit « Mais si on revient là-dessus, on va se retrouver au temps des Amish. » Eh bien non, ce qu'il faut, c'est réfléchir autrement, travailler autrement et penser les choses, mais les faire évoluer. Bien sûr qu'on ne change pas du jour au lendemain, mais au lieu de changer, au lieu d'évoluer, eh bien on continue toujours jusqu'au moment où on va aller dans le mur. Alors c'est vrai qu'on nous dit « Orano », EDF, ils ont des problèmes financiers. Mais pourtant, on nous a dit pendant des années, mais l'électricité nucléaire, c'est la moins chère, c'est la plus rentable, c'est la meilleure. Et on continue à nous le dire. Et on nous dit, oh ben attendez, il y a l'EPR qui va arriver, sauf que l'EPR, il a déjà coûté 3 ou 4 fois plus cher et il ne fonctionne pas que ce qui était prévu initialement. On ne pense pas autrement à l'heure actuelle. Or, il faut penser autrement. Et il faut penser autrement aussi au niveau de l'économie.
Alors, la population autour de ces centrales ou de ces centres de traitement, comment agit-elle de son côté ? Est-ce que vous avez écho de vos démarches auprès de la population ?
Eh bien, c'est le rôle des commissions normalement, c'est le rôle des commissions locales d'information qui sont là pour suivre la sûreté et la sécurité et informer les citoyens. Et malheureusement, l'information, elle est encore trop diffuse. Alors, l'IRSN, c'est l'Institut de Radio National sur la radioactivité, a fait une étude, un baromètre. Ils ont fait un baromètre en demandant aux citoyens, des citoyens lambda, sur un panel assez large, quelle était leur image par rapport au nucléaire. Plus de 70% disent craindre le nucléaire. Bon, c'est une chose. En revanche, quand on essaye de toucher les citoyens, de les contacter, de les informer, on a peu de retours. Alors, on a peu de retours, c'est vrai, mais aussi on a peu de moyens. Ces commissions locales d'information qui ont été créées en 1981, elles n'ont pas non plus, à l'heure actuelle, une possibilité très forte de donner l'information. Et aussi, quelquefois, une volonté. Parce que dans ces commissions locales d'information, il faut voir qu'il y a des pros et des antinucléaires. Donc il y a les associations, il y a les syndicats, il y a les représentants donc des entreprises, il y a les élus. Et je crois que les élus ont un rôle majeur dans l'évolution de notre société à l'heure actuelle. Le problème, c'est que très souvent, les élus, eh bien, ils vont raisonner un peu avec les questions que vous avez posées tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord l'économique et après l'environnemental. Alors qu'on devrait réfléchir en disant d'abord l'environnemental et après l'économique. Tout en sachant que ces deux points ne sont pas des points antagonistes, mais il faut les penser différemment.
À l'image des coccinelles pour les betteraviers dans le Nord, qu'en est-il pour vous au niveau de la Frappenin, quels sont les moyens ou les propositions alternatives que vous proposez pour contrecarrer cette menace?
Alors, si vous voulez, pour nous, c'est de... De toute façon, nous sommes contre le nucléaire. Donc, quand on voit le Tricastin et les usines qu'il y a au niveau du Tricastin, c'est-à-dire les centrales nucléaires qui ont plus de 40 ans, qui devraient à l'heure actuelle être fermées et que l'on prolonge ce que l'on appelle le grand carénage, que l'on prolonge pour des dizaines, voire des vingtaines d'années, et bien on dit que c'est... que d'une part c'est dangereux et que d'autre part c'est de la folie et que c'est pas la solution. La solution, c'est un peu ce que l'on disait tout à l'heure sur les betteraves, on le sait à l'avance. Donc préparons le terrain. Premièrement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Ça veut dire qu'il faut travailler énormément en France sur les économies d'énergie. Économies d'énergie dans les bâtiments, travailler sur le ferroroutage pour éviter d'utiliser trop de camions sur la route et ainsi de suite. Donc les économies d'abord. Deuxièmement, les énergies renouvelables. Et il faut arrêter de dire que les énergies renouvelables ne sont pas des énergies d'avenir. Si, on sait très bien que il y avait un physicien ces temps-ci qui disait que 6 heures d'énergie solaire permettraient de gérer l'ensemble de l'énergie de l'année du monde. Vous voyez ? Donc on n'est pas du tout, on ne sait pas travailler l'énergie solaire correctement à l'heure actuelle. Et on continue à jouer à utiliser l'énergie nucléaire, qui est quand même une énergie fossile, parce que l'uranium, il n'est pas non plus éternel. Hein. Donc on pollue dans le prélèvement, on pollue dans l'utilisation, et on pollue au démantèlement. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on fait de ces usines que l'on va démanteler? Les problématiques de Cigéo, la problématique de George Best 1, hein, du jour où on aura dépollué la nappe, que l'on aura supprimé toute cette entreprise, eh bien, on a du temps encore et des marges importantes. Donc, ce qu'il faut, c'est penser l'avenir et penser l'avenir différemment.
Et de faire prendre conscience, donc, à Orano, entre autres, de l'aspect environnemental de leur industrie.
Bien sûr, mais moi je pense que c'est des gens qui savent très bien où ils en sont et ce qu'ils font. Hein. Mais, si vous voulez, eux sont convaincus, les gens qui sont pro-nucléaire, sont convaincus qu'il n'y a qu'une solution, c'est la solution du nucléaire, que demain on va recycler les déchets pour en faire de nouvelles énergies, et ainsi de suite. Et c'est un antagonisme difficile, mais on doit travailler pour l'avenir, et l'avenir, à mon avis, il n'est pas dans le nucléaire, loin de là.
Le temps joue aussi contre vous, hein, puisque en général, ces types de plaintes prennent des années avant d'avoir de l'action. Est-ce que vous êtes paré justement pour cette durée et est-ce que vous ne craignez pas justement un débordement par d'autres aspects sur l'environnement?
Ben, si vous voulez, nous, d'abord, le temps, c'est le rapport de force. Le rapport de force financier entre des entreprises comme Arano ou EDF et les petites associations que nous sommes. Donc c'est vrai qu'au niveau judiciaire... Mais le temps, il nous est compté pour tous. C'est-à-dire que si on ne veut pas faire évoluer, si la prise de conscience reste une prise de conscience mais donne pas de résultats sur le terrain, eh bien, nous aurons des problématiques, que ce soit pour la pollution, que ce soit pour le nucléaire, que ce soit pour les situations, les problématiques, on les aura de plus en plus. À l'heure actuelle, on a parlé longtemps de réchauffement climatique. Moi, je pense qu'il vaut mieux parler de dérèglement climatique. On le voit bien, les dérèglements, ils sont de plus en plus violents, de plus en plus forts. La prise de conscience, elle commence, elle arrive, elle est de plus en plus forte. Mais il faut passer aux actes. Et alors, c'est vrai que pour nous, ça fait des années qu'on y travaille. La FRAPNA, Nature, Drôme Environnement, elle existe depuis plus de 40 ans. 47 ans qu'elle vit. Ça fait 47 ans qu'on se bat pour l'environnement, pour que l'on change les choses et que l'on respecte mieux cette planète. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on est satisfaction sur beaucoup de choses. Mais pourtant, on continue et on se bat. Et les associations qui portent plainte sont là pour faire comprendre aux gens ce qui se passe.
Au niveau Oui, allez-y, continuez.
Et quand il y a, par exemple, un groupe comme Greenpeace qui rentre dans une usine pour montrer la fragilité, l'intrusion, et quel est le résultat en justice? C'est que ces gens-là, ils vont passer en justice dans quelques temps, alors que ce sont des lanceurs d'alerte, et bien ils vont payer. J'espère qu'on arrivera à les défendre et qu'ils ne subiront pas les conséquences, mais ils vont payer tout simplement l'information qu'ils ont donnée, c'est-à-dire, attention, vos usines ne sont pas sûres.
Les CLI, Comité Local d'Information, s'adressent également aux représentants ou élus des collectivités locales?
Bien sûr, et les élus des collectivités locales en font partie. Et nous travaillons, au niveau départemental, vous avez des commissions locales d'information. Chaque usine nucléaire, chaque centrale nucléaire a une CLI. Mais au niveau national, il y a une association nationale de ces commissions locales d'information qui travaille justement à donner une information plus générale. Et que ce soit au niveau des CLI, que ce soit au niveau de l'ANCLI, on doit aller vers les élus pour leur faire comprendre tout l'intérêt qu'il y a à travailler sur la sécurité et la sûreté de ces usines. C'est pour ça qu'on a l'impression de l'extérieur de dire « Ah, mais une centrale nucléaire ou un centre comme Orano qui donc fait du travail de chimie en définitive, ce sont des outils très sûrs, parfaits, tout ça. » Eh bien non, on a régulièrement des informations avec des erreurs, des problématiques qui ne devraient pas arriver. Et malheureusement, elles arrivent régulièrement. Alors, ce sont des situations qui n'ont pas d'incidence ou peu d'incidence environnementale pour l'instant, tout relatif, hein, quand on voit les fuites de tritium, quand on voit la pollution des nappes, c'est quand même des incidences importantes. Mais regardez les accidents, Fukushima, Tchernobyl, on paye encore les résultats de ces risques. Et si demain ceci arrivait en France, que ferait-on? Le nucléaire, c'est quelque chose de dangereux.
Par rapport aux collectivités locales, il y a cet aspect aussi économique de l'emploi. Est-ce que ça aussi, oui, c'est une barrière pour justement modifier un peu ces choses?
Absolument pas. Les reconversions d'emploi, on pourrait les faire. Mais tout ça, ça se prépare. C'est-à-dire que, comme à Fessenheim, on ferme Fessenheim, mais on n'a pas préparer le départ des personnes. Ça se prépare, tout ça. Dans les énergies renouvelables, dans le démantèlement, on a du travail, mais pour de nombreuses années. Il faut arrêter de dire toujours on ne pourra pas assurer. On peut assurer, on peut transformer. Mais bien entendu, ceci doit se faire sciemment et doit se préparer. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réfléchir à recréer des EPR. On veut recréer des EPR en France. C'est-à-dire qu'on veut continuer. On sait que c'est dangereux. Eh bien, on veut continuer et on veut aller encore plus loin en disant « Mais non, là, on va avoir des appareils. Les anciens n'étaient pas très bien, mais les nouveaux seront parfaits. » C'est faux. C'est
voilà. Faux. Le gouvernement a présenté son plan de relance et concernant justement l'hydrogène à la hauteur de 7 milliards d'euros d'investissement, comment voyez-vous cet aspect? Est-ce que l'hydrogène est pour vous une alternative aussi?
Alors, l'hydrogène, c'est une alternative bien sûr, mais l'hydrogène, il faut aussi le créer, le faire, le préparer cet hydrogène. Et il faut regarder le coût, si vous voulez, à l'heure actuelle, le coût de l'hydrogène, il est très, très important. Si on trouve des solutions où l'hydrogène sera moins coûteux à sa préparation, eh bien peut-être que ça sera une des solutions. Mais comme je vous disais, la meilleure solution, c'est déjà de chercher simplement quelles sont les solutions d'économie d'énergie. Comment peut-on penser autrement notre société pour qu'elle économise tout en vivant qualitativement bien.
Patrick Rouyanné, la FRAPNA organise peut-être des rendez-vous prochainement, dans la mesure du possible à cause du Covid. Est-ce que vous avez quelques dates ou des moyens justement de savoir votre travail ?
Alors, la FRAPNA, moi je vous invite à regarder, parce que la FRAPNA participe aux fêtes de la nature qui auront lieu ce week-end. Et sur le site du conseil départemental, vous pourrez voir toutes les activités qui sont proposées au niveau de la nature par la FRAPNA. Alors la FRAPNA travaille aussi dans toutes les commissions, si vous voulez, les commissions départementales. Donc on a parlé de la commission du nucléaire, mais on peut parler aussi de la commission de l'agriculture. On peut parler de la commission de la gestion de la chasse. On peut parler des commissions sur l'eau. Nous sommes présents avec nos moyens, avec nos bénévoles, nous sommes présents dans toutes ces commissions pour réfléchir, faire passer des idées et travailler à un monde meilleur.
Patrick Rouyanné, vous avez toujours foi en ce combat ?
Autrement, je ne serais pas là. Je ne vous répondrais pas si je n'avais pas foi. Bien sûr que j'y crois. Je crois parce que, si vous voulez... J'y crois pour nos enfants, j'y crois pour nos petits-enfants, j'y crois pour une société qui peut être durable, agréable et qui est sans doute plus résiliente.
On peut inviter les auditeurs à se rendre sur votre site internet, vous en avez un, je suppose.
Oui, nous avons un site internet à la FRAPNA qui donne toutes les informations. Nous avons aussi une revue qui est diffusée une fois par trimestre, qui s'appelle les épines dromoises, qui est diffusée dans toute la Drôme. Et donc, je vous invite à lire régulièrement. Elle donne toutes les informations, parce que, si vous voulez, notre volonté au niveau de la FRAPNA Drôme Nature Environnement, c'est de voir l'environnement dans la réalité de notre département. Et de voir les problématiques dans la réalité, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour le nucléaire, que ce soit pour les déchets, toutes les situations, nous les travaillons au sein de notre département.
Dans le Diwa, est-ce qu'il y a une représentation de la FRAPNA, justement ?
Oui, on a des adhérents au niveau du Diwa, si vous voulez. On a des adhérents. La FRAPNA a plus de 800 adhérents en Drôme, donc... qui relaie les informations, diffuse, participe. Et on a effectivement des adhérents dans le Diwa.
Eh bien, Patrick Rouyanné, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis au revoir.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Et à bientôt. Au revoir.